Je vous propose ce matin un petit parcours sur les défaillances de la foi, les tentations contre la foi. C'est loin d'être complet, mais il n'est pas mauvais quelquefois de regarder un petit peu cet aspect des choses, parce que nous expérimentons bien sûr la fragilité de notre foi, ses faiblesses, ses défauts, et puis aussi quelquefois de véritables tentations contre la foi. Et nous avons à réagir en permanence quand elles sont pour nous comme des ornières dans lesquelles nous risquons de nous encaisser. La défaillance la plus fréquemment mise à jour, quand on regarde les évangiles, dans les dialogues de Jésus avec les disciples, avec les personnes qui l'entourent, semble être celle-ci un regard trop humain sur les événements. Au cœur du quotidien, la foi, c'est un levier d'action pour l'impossible, et le regard humain sur l'événement, au contraire, limite l'action de Dieu à ce qui est possible. Et il en résulte une espèce d'incapacité à accueillir la puissance de l'amour de Dieu à l'intérieur de l'événement que nous vivons. Si vous voulez, on va prendre des exemples que j'ai un petit peu assaisonnés à la sauce amusante, en mettant par exemple la foi pantouflarde, la foi aveugle, la foi sans risque, la foi trop courte, ou encore la foi vissée aux apparences. Mais c'est un petit peu toujours la même chose. La foi pantouflarde, c'est les gens qui cherchent à garder leurs appuis en disant surtout pas d'imprudence, il faut savoir garder les pieds sur terre. Et vous connaissez l'épisode de Jésus qui revient à Nazareth, Matthieu chapitre 13, versets 53-58. Ici, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait les gens dans leur synagogue. Ils étaient frappés et disaient « D'où lui vient cette sagesse et ces miracles ? Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier ? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie et pour frère Jacques, José, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? D'où lui vient tout cela ? » Et ils étaient choqués à son sujet. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison, et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Ici, on trouve Jésus humain, trop humain, et Jésus a passé 30 ans au milieu d'eux. Il s'imagine qu'il ne peut pas être devenu en si peu de temps un prophète puissant. Donc le regard posé sur Jésus l'enferme dans son passé, à Nazareth, et repousse a priori toute nouveauté venant de Dieu. Ce qui sort trop d'une vie ordinaire, au contour familier, devient suspect. On préfère garder son contour habituel, se satisfaire, se rassurer à bon compte, plutôt que d'envisager la vérité. Et Jésus est victime d'une certaine défiance, mais la défiance n'a jamais engendré la foi, elle amène à se priver des dons de Dieu les plus manifestes. Une foi qui n'arrive pas à se risquer sur l'imprévu et la nouveauté de Dieu. On peut prendre un deuxième exemple qu'on peut intituler « La foi aveugle ». Avec cette petite phrase, pour les autres peut-être, mais moi, ce curé, j'en suis point de là. Comme il passait sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Or Jésus leur dit, ouvrez l'œil et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et eux de faire en eux-mêmes cette réflexion, c'est que nous n'avons pas pris de pain. Le sachant, Jésus dit, gens de peu de foi, pourquoi faire en vous-même cette réflexion que vous n'avez pas de pain. Vous ne comprenez pas encore, vous ne vous rappelez pas les 5 pains pour les 5000 hommes et le nombre de couffins que vous en avez retirés, ni les 7 pains pour les 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous en avez retirés. Comment ne comprenez-vous pas que ma parole ne visait pas les pains ? Donc on est dans un dialogue de sourds ici et Jésus se heurte à l'incompréhension. On a mal interprété sa remarque, on ne l'a pas comprise. Et pourquoi? Parce que les disciples ne tiennent pas compte de ce que Jésus leur a déjà dit à travers la vie concrète, le réel, ce qu'il vient d'accomplir sous leurs yeux, par deux fois la multiplication des pains. Donc ils ont oublié d'acheter du pain ou de prendre du pain en montant dans la barque, ça n'a pas beaucoup d'importance. Jésus peut pourvoir. Mais non, ils n'ont pas saisi. Et Jésus, au fond, à travers ces signes qu'il a donnés, fondamentalement, n'a pas fait bouger le rapport qu'ils ont aux choses matérielles dans leur vie quotidienne, parce qu'ils s'imaginent que peut-être on ne va pas rabaisser Dieu à s'occuper de nous dans les détails matériels de la vie. Au fond, c'est peut-être vrai pour les autres, mais eux, ils n'en sont pas encore là. Mais voilà, ils sont empêchés de voir, de croire et d'aller à Jésus. Un troisième exemple qu'on pourrait intituler « La foi sans risque ». Faites attention, c'est un illuminé, n'est-ce pas? Ça, c'est une phrase qu'on est amené à prononcer de temps en temps. Et on peut regarder l'épisode de la marche de Pierre sur les eaux. Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés. « C'est un fantôme, disait-il. » Et pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla en disant « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Sur quoi Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. »« Viens, » dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur et commençant à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main et le saisit en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Vous remarquez que Jésus ne reproche pas à Pierre d'avoir demandé une telle chose, de marcher sur les eaux. C'est pas ça qu'il lui dit. Il lui dit « Homme de peu de foi ». Et le problème, c'est que Pierre a bien commencé, il a marché sur l'eau, mais voilà, il a regardé le vent qui chahute le lac. Le caractère dangereux de la situation a fait que le regard humain sur l'événement qu'il était en train de vivre l'a emporté sur le regard de foi. Et Pierre s'est mis à couler. Et ça, c'est quelque chose que nous vivons assez fréquemment. Le choc entre ces deux regards, un regard humain sur les choses, sur les réalités, qui nous fait avoir quelques vertiges, des inquiétudes, des angoisses, et puis le regard de foi qui nous permet de dire non, tout est sous contrôle, tout est entre les mains de Dieu. Et alors c'est d'autant plus vrai qu'on est dans une société qui essaye de bannir le risque par toutes sortes d'assurances, alors que suivre Jésus nous fait forcément prendre des risques. Et c'est là que notre réaction révèle la qualité de notre foi, et puis qu'il y a un combat, un véritable combat spirituel en nous. C'est un appel à assumer dans la foi le décalage par rapport aux normes en vigueur dans la société. Et Jésus n'a pas parlé à Pierre de présomption, il n'a pas reproché une certaine présomption, mais il lui a parlé d'un manque de foi. Parce que la foi aurait pu lui permettre de marcher sur l'eau et d'aller jusqu'à Jésus, jusqu'au bout. Alors il faut peut-être tempérer ces affirmations en disant quand même que le regard de foi peut aussi lui-même se transformer en fidéisme, c'est-à-dire en fausse confiance en la providence. Et on va alors tenter Dieu par absence de respect des lois matérielles de la création, par paresse, ou par manque de responsabilité, ou par absence de simple bon sens, dans une attitude de foi qui alors sera déséquilibrée. Il faut savoir tout de même que le simple bon sens est le meilleur allié du Saint-Esprit, et que donc lorsque des gens se mettent à batifoler dans leur tête avec des choses bizarroïdes qui ne collent pas avec le bon sens, c'est probablement pas du Saint-Esprit. Mais voilà, il faut saisir en nous l'émotion de l'esprit, les tentations qui nous traversent, le combat spirituel qu'on a à vivre, c'est pas si simple que cela, c'est sûr. Encore un autre aspect, la foi trop courte. Du genre, on ne me fera tout de même pas croire une chose pareille. C'est par exemple dans un peu le cas au moment où Jésus va demander à Lazare de sortir du tombeau. Jésus demande aux deux sœurs, où l'avez-vous mis? Et ils disent, Seigneur, viens voir. Jésus pleure et les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns d'entre eux disent, ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas? Et Jésus est un petit peu irrité en lui-même à cause de ces paroles. Donc il se rend au tombeau, c'était une grotte, avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc le reproche fait à Jésus, ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas? C'est un reproche normal d'une certaine façon, devant le spectacle du mal qui est quelquefois terrible. On accuse Dieu de ne rien faire, d'être absent. Mais Jésus n'accepte pas cette attitude, car en sa présence, puisqu'il était là vraiment, elle manifeste un acte de foi, un manque de foi. Et Jésus s'en indigne, s'en irrite. On dit Jésus frémit, fut troublé, et on a l'impression que c'est de l'émotion. Et quand on regarde le texte grec de l'Évangile, on voit que le verbe employé, c'est plutôt Jésus fut irrité, agacé, parce qu'on réagit devant lui, qui est le Seigneur de la vie, comme devant quelqu'un qui ne peut rien par rapport à la mort. Donc Jésus est indigné. Et depuis le début de ce chapitre 11, nous savons bien que Jésus volontairement n'est pas intervenu afin que la gloire de Dieu se manifeste par le retour à la vie de Lazare. Les Juifs, au contraire, interprètent ce laisser mourir comme un signe d'impuissance. Et la demande de Jésus, un ordre plutôt, prend Marthe au dépourvu. Elle qui avait pourtant mis toute sa foi en Jésus est comme prise d'un vertige devant les conséquences concrètes de son acte de foi. C'est trop beau pour y croire, c'est trop grand, c'est trop fort. Même la plus grande foi est encore cependant en dessous de ce que Dieu veut donner. Alors Jésus vole au secours de Marthe, Jésus lui demande une foi ferme, une foi qui n'hésite pas. Et c'est comme s'il demandait d'ailleurs notre foi pour agir. Jésus provoque Marthe à aller plus loin dans sa foi, une foi ferme qui obtient la manifestation de la gloire de Dieu. Donc quelquefois, notre foi est trop courte. Et cependant, là encore, c'est un argument qu'il faut manier avec discernement, parce que souvent, on a pu dire à des gens, mais vous savez, si vous n'avez pas été exaucé, c'est parce que vous n'avez pas assez de foi. Ah, quand savons-nous? Quand savons-nous? C'est pas une bonne chose à dire. Donc c'est à manier avec discernement, mais c'est vrai qu'à certains moments, le Seigneur, dans sa pédagogie, nous pousse un petit peu à l'extrême, de sorte que notre acte de foi soit vraiment le plus ferme possible. Enfin, un dernier aspect, la foi vissé aux apparences, du genre il ne serait pas raisonnable d'aller plus loin. Tandis qu'il parlait encore, dans Marc chapitre 5, arrive de chez le chef de synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte, pourquoi déranges-tu encore le maître ?» Mais Jésus, qui avait surpris la parole qu'on venait de prononcer, dit au chef de synagogue « Sois sans crainte, aie seulement la foi. » Donc là encore, Jésus réclame un acte de foi qui s'oppose directement à la réalité. Cet enfant vient de mourir. Jésus demande à son père l'acte de foi qu'il va aller la réveiller de la mort. Alors comment croire une chose pareille, n'est-ce pas? Comment imaginer une chose pareille, sinon par un don de Dieu? C'est pour ça que Jésus le reprend et lui dit, sois sans crainte, aie seulement la foi. Cet homme était venu demander la guérison de sa fille, ma petite fille est à toute extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Mais maintenant qu'elle est morte, qu'espérer encore? Et Jésus semble vouloir nous accoutumer à ceci, les apparences sont une chose, ce que Dieu veut faire en est une autre. La foi s'applique à ce que Dieu veut faire, et non pas à ce que les apparences nous montrent. Alors évidemment, toute la question c'est d'accueillir ce que Dieu veut faire, de savoir ce que Dieu veut faire, parce qu'on peut se tromper, bien sûr. Mais voilà, les apparences sont une chose, et puis ce que Dieu veut faire est autre chose, et la foi s'applique à ce que Dieu veut faire, et non pas, évidemment, à ce que les apparences nous montrent, qui sont contraires, quelquefois, totalement contraires, totalement opposées. Donc la foi consiste donc à franchir ce fossé, ce vide, pour continuer à croire coûte que coûte, malgré les apparences. Au fond, on s'aperçoit en lisant tous ces épisodes de l'Évangile que notre foi est fragilisée parce que nous sommes fréquemment tentés contre la foi. Ces tentations sont permanentes. Elles proviennent en partie du conflit entre la tête et le cœur. On réfléchit tellement, notamment nous Français, tellement bien qu'on finit par ne plus savoir aimer librement et donc risquer. Elles proviennent aussi de notre résistance acharnée à tout ce qui pourrait nous faire perdre nos sécurités et nos appuis. Là-dessus, on est évidemment tout à fait crispés, même inconsciemment en fait, c'est plus fort que nous. Et puis, ça peut provenir aussi de la force avec laquelle le mal frappe le monde et nos vies. Comment donc retrouver une plus grande liberté intérieure, une plus grande force de foi? Par la prière, me semble-t-il, en grande partie, à la fine pointe du combat spirituel, lorsque la tentation de refuser la croix est lancinante, Jésus à Gethsémani à cette parole, « Qu'avez-vous à dormir? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer dans la tentation. » « Qu'avez-vous à dormir? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer dans la tentation. » C'est exactement la parole du Notre Père, « Fais que nous n'entrions pas dans la tentation. Garde-nous de consentir à la tentation. » Cette vigilance exige d'éviter à certains moments de succomber au sommeil ou au divertissement en nous acharnant à prier pour pouvoir aller de l'avant. Il ne faut pas oublier non plus cette parole que Jésus a prononcée à l'égard de Pierre, mais qui est valable aussi pour nous. Satan vous a réclamé pour vous cribler. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Parole que Jésus adresse à Pierre avant la Passion, et nous ne sommes pas évidemment plus résistants que Pierre. Il faut donc nous mobiliser dans la prière pour nous-mêmes, et puis aussi pour nos frères, car nos frères n'auraient-ils pas plus besoin que nous, que nous nous mobilisions dans la prière pour leur obtenir la grâce de tenir? Des gens autour de nous sont tentés quelquefois de dévisser de la foi, et notre prière peut leur obtenir de rester fidèle. Donc seule la prière, celle de Jésus et la nôtre, peut nous donner à tous la force de rester ferme dans la foi.